Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Jean-Charles.
Salut Martémy.
Mais écoute, merci infiniment de me recevoir aujourd'hui. On est à l'INSEP sur ton camp d'entraînement, là où tu t'entraînes depuis.
C'est un peu, on peut presque dire la maison, parce que c'est vrai que je suis rentré là, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. Ouais. Ça fait quand même un bon bout de temps. Donc oui, ouais. C'est, on peut dire la maison, quoi.
Ouais, c'est vraiment, t'es vraiment à la maison. Je tenais à remercier Laurence Frère qui nous a mis en relation. C'est la directrice de la communication de la Fédération française de tir à l'arc, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais tu es archer, tu es même un excellent archer, si ce n'est le meilleur au monde. Tu as été champion du monde, tu as été vice-champion olympique en 2016 à Rio. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir te rencontrer parce que parce que le tir à l'arc, c'est un sport qui m'intrigue beaucoup. C'est un sport que tout le monde connaît, mais j'ai l'impression que les gens connaissent finalement peu. Donc ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi pour pouvoir comprendre mieux ce sport, comprendre aussi la psychologie de l'archer. On va y revenir un petit peu plus tard. Comme je te le disais, la question un petit peu traditionnelle pour commencer les échanges, c'est de savoir quel est toi ton premier souvenir de sport.
Quel est moi mon premier souvenir de sport? Bah, en fait, j'ai été dans une période d'essai de tous les sports, entre 5 ans et 8 ans, escalade, escrime, du canoë-kayak, du foot, et puis oui. La pire chose de ma vie. Et c'est vrai que quand je dis la pire chose de ma vie, c'est que ça fait partie de des débuts de mon sport. C'est que je me rappellerai toujours, j'étais dans l'équipe du village à Boussière, un petit village à côté de Torp, là où j'ai fait mes débuts au tir à l'arc, et je faisais du foot, et puis... petit côté un peu feignant quand même de l'athlète, comme on pourrait dire. Okay. Et j'aimais bien être gardien. Et puis, ça rendait fou tous les gens de mon équipe parce que quand ils étaient de l'autre côté du terrain, bah, moi, je m'asseyais. Je veux dire, il y a un moment, ça sert à quoi de je reste debout, aller regarder de loin comme ça. Et je me rappellerai toujours mes parents, après, quand on était dans des repas de famille ou même là, anecdotiquement, 15, 20 ans après, qui disaient, mais tu te rends compte, les parents des gamins étaient derrière en disant, mais qu'est-ce qu'il fait ton fils assis dans les cages? Bah, voilà. Ça, c'était les grands débuts dans le sport pour moi, le foot, où je me suis bien vacciné. Exactement. Où ça m'a bien vacciné, que c'était bien quelque chose qui ne me convenait pas à moi, et puis derrière j'en suis arrivé au tir à l'arc, et puis je m'en suis arrêté au tir à l'arc.
Comment t'es arrivé dans le tir à l'arc? C'est pas un sport très commun, et
c'est pas un sport très commun, mais c'est vraiment un sport qui reprenait aussi un petit peu mes valeurs. Je veux dire, j'étais dans l'essai de tous ces sports, à aller faire de la course en ligne ou du canoë en slalom pour être dans l'eau. Voilà, moi je suis pêcheur, je suis chasseur, je suis un épicurien, je suis issu du monde rural, hein, et j'ai été élevé dans ces situations-là, aller à la vigne avec mon père, aller à la chasse avec mon grand-père, à la pêche, et en fait de se dire, je vais refaire du canoë, je suis tout le temps sur l'eau, aller faire de l'escalade, je pourrais faire des trucs sur des falaises, ainsi de suite, jusqu'en arriver, le foot, ouais, mais le foot, c'est au final, c'est artificiel pour moi, c'est un terrain, on se met dessus, puis on joue au ballon, c'est pas quelque chose qui me convenait, et puis jusqu'en arriver au tir à l'arc, parce que dans le club d'à côté, le village à côté de chez moi, qui s'appelle Torp, donc on se situe à une dizaine de kilomètres de Besançon, il y avait un club de tir à l'arc qui marchait pas trop mal, parce que le fils de l'entraîneur, Jocelyn de Grandis, commençait à avoir énormément de résultats au point de vue internationaux, et ouais. Puis forcément on entend parler un peu dans la presse en disant, ah t'as vu au tir à l'arc, il y a eu un champion de France, ah il y a eu un champion d'Europe, champion du monde, ainsi de suite, et tu te dis, moi je vais aller essayer le tir à l'arc, et en fait ouais. Je suis rentré dans cet esprit là où le premier jour je suis arrivé, on m'a dit, voilà, un arc c'est ça, on essaye, tu vas, on va tirer des flèches, on va te donner des cours, et puis ce qui m'a surtout plu, hormis le fait d'utiliser une arme de jet, ce que j'aimais bien faire quand on était dans les bois derrière chez moi, couper une baguette de noisetier, aller prendre de la ficelle sur les bottes de paille au milieu des champs et se faire hurler dessus par les paysans et se faire des flèches, c'était vraiment le fait de dire, là je le fais vraiment légalement sans faire de conneries, et où on peut se battre sportivement avec un adversaire, et puis cette ambiance dans le club là, le père de Grandis, Pascal, vraiment des valeurs très particulières autour de la nature, un peu comme les miennes, la pêche, la chasse, venez là les petits jeunes, je vais vous montrer ce que c'est et tout. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu, puis je me suis intégré là-dedans et j'en suis plus jamais sorti.
Ouais, c'est la dimension très nature, très jeu finalement qui t'a attiré, ouais.
Exactement. C'est ça qui a été, on va dire, un peu le déclencheur, de se dire, je rentre dans un truc qui n'est pas aussi physique que de courir après un ballon pendant une heure et demie, parce que c'était pas quelque chose qui me convenait pour moi, mais qui restait tout aussi physique, parce qu'au final, quand on commence une compétition à 8h le matin et qu'on la finit à 17h le soir, l'éprouvement physique est elle-même que si on court 90 minutes après un ballon, mais c'était orienté différemment, avec des gens qui avaient une valeur un peu différente, et puis aussi c'est accessible à tous. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de se dire, tiens, je vais performer dans le foot et je vais être très bon dans le football si je fais 110 kilos, si j'ai 30 ans de plus que mes adversaires. L'avantage du tir à l'arc, c'est que... Voilà, c'est ça. L'avantage du tir à l'arc, c'est que c'est vraiment où tu peux te retrouver. Moi, j'ai démarré mes premières flèches à être entraîné par le père de Grandis et puis 2-3 bénévoles du club, avec sur la cible d'à côté les vieux de la vieille du tir à l'arc en font depuis 40 ans et qui te disaient, tiens, mon petit, viens, on va se prendre en duel, et puis qu'une fois dans l'année t'arrivais à battre le vieux de la vieille qui fait du tir à l'arc depuis 40 ans, c'était le bonheur, quoi, puis ainsi de suite, et c'est un peu ce mélange culturel et puis ce mélange social qui était vraiment intéressant pour moi et qui a fait que j'ai vraiment mordu, quoi.
Ok. Et t'as rencontré rapidement toute la famille de Grandis et je sais pas, ça a été un... T'en as parlé assez rapidement, j'imagine que c'était peut-être un modèle ou
bien sûr.
Pour un gamin, pour un enfant, tu vois.
C'est surtout, si je me rappelle bien, quand j'ai démarré, Jocelyn devait déjà être en pôle, donc en sport-études. Et puis forcément, il était plus 100% à Torp, il revenait de temps en temps le week-end, il y avait des réussites en compète sur différents championnats internationaux. Avec l'équipe de France, donc on entendait parler un peu dans la presse, on entendait parler nous au club parce que voilà son père, Jocelyn ce week-end il a fait ça, et puis jusque de fil en aiguille jusqu'il aille faire les Jeux de Sydney. Et si je dis pas de bêtises, Sydney c'était 2000.
Ouais.
Et 2000 ça devait être les années à peu près. Les années où je suis rentré en pôle, si je dis pas de bêtises, un peu plus tard. En fait, tout était un peu plus tard. Non, c'est vrai. Mais voilà, il avait commencé à faire les jeux. Ouais, c'est ça, de Sydney. Et après, il y a eu les Jeux d'Athènes. C'est parce que j'ai en tête des petits moments comme une carte postale qui est arrivée signée de Jocelyn. Mais est-ce que j'étais déjà en pôle ou pas? Mais voilà, ça a été un tout de toutes ces compétitions-là, qu'on fait que de plus en plus proche un peu avec Jocelyn dans les débuts, parce qu'il revenait de temps en temps le week-end. Et du coup, moi, vu que j'étais de plus en plus intégré et impliqué dans le club à s'entraîner de plus en plus, Jocelyn qui revenait de Pôle, qui revenait de l'INSEP, j'allais faire des week-ends avec et avec son père quand on allait s'entraîner ou faire des compètes amicales aux quatre coins du département. Donc forcément, ça a été aussi un peu un déclencheur de se dire « Ah mais lui, il est comme moi, il est issu du village-là, et puis tu te rends compte, il va faire des compètes, il va être champion de France, champion du monde, il va aller faire les Jeux Olympiques, il habite à Paris, quand on est issu de la campagne. » Bien sûr, ça peut être un rêve d'y aller, ou un rêve de ou pas, mais je veux dire, de se dire « Voilà, il est à Paris, il s'entraîne, il rentre le week-end, tu te rends compte, c'est une vie assez originale qui change de la vie rurale aussi, quand j'étais en pleine découverte. » Donc je pense que ça a fait partie du... La partie de la découverte du tir à l'arc et surtout de l'intégration et de l'imprégnation en moi pour ça, quoi.
Ok. Et il t'a accompagné pendant un moment. Là, tu parles d'une carte postale.
On parle d'une carte postale. C'est des petits détails que j'ai parce que voilà, Jocelyn, c'était l'enfant du club qui renvoyait des cartes postales aux licenciés du club. Voilà, ouais. Torp, c'est un tout petit club. On est 30 licenciés en fonction des années. C'est un des plus petits clubs de France. Et on a été un des plus forts. On a été un des rares clubs, d'ailleurs, à l'époque, à ce qu'on appelait, nous, dans le club, à faire le grand chelem. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les championnats de D1. Donc, c'était quatre épreuves de championnat de France par équipe de club. Et on avait gagné les quatre qualifications. Tous les matchs sans jamais avoir perdu un match de la saison complète. Et la même chose au championnat d'Europe qui a suivi, parce que c'était les débuts du championnat d'Europe par équipe de club, et d'avoir gagné les qualifications, d'avoir gagné. On a été d'ailleurs le seul club à réaliser une performance telle. Donc je me rappellerai, c'était vraiment dans les débuts quand j'étais déjà en pôle et qu'on était un peu en haut niveau, mais qu'on alliait vraiment les capacités, les performances de Jocelyn, des miennes, celles de Dimitri Varechon, et on était une équipe, on était les trois, c'était Torp, quoi, c'était les intouchables. et forcément, ça a été un peu moteur autour de ça, et surtout, c'est l'investissement de la famille, surtout du père de Grandis, de Pascal, qui vivait tir à l'arc. Il était prof de sport dans un collège à côté, dans le collège de Saint-Vite, là où j'étais d'ailleurs. Donc c'était assez sympa, parce que quand j'étais en quatrième, troisième, c'était mon prof de PS. Donc c'était toujours bien plus facile quand le samedi matin, parce qu'on avait cours le samedi, d'avoir des mots d'absence, parce qu'on allait faire une compète aux quatre coins du département ou sur déjà les championnats de France, c'est le prof de sport du collège qui allait voir la directrice en disant, Jean-Charles, il sera absent, c'est pas ses parents qui demandent. Donc tu vois, c'était vraiment un peu vraiment sympa d'avoir cette confiance là-dedans. Et puis l'intégration du personnage. On avait mes parents, moi, sont pas du tout issus du tir à l'arc. Ils sont complètement, ça a rien à voir. Je veux dire, moi et ma sœur, c'est vous faites ce que vous voulez, du moment que vous le faites à fond, vous vous donnez les moyens pour, on vous accompagnera. Quel que ce soit, que demain tu veuilles aller élever des cochons, que tu veuilles faire du tir à l'arc, que tu veuilles faire du foot, faites-le, faites-vous plaisir. Nous, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont ensemble et qui nous ont toujours accompagnés là-dedans, ma sœur et moi. Donc c'était quelque chose qui m'a vraiment soutenu et qui nous a vraiment permis d'avancer dans des moments comme ça, quoi.
Ouais, c'est génial. Bah, ça aide beaucoup d'avoir des parents qui te soutiennent, quel que soit ton projet et quelles que soient tes envies. Et bah, surtout quand elle est un peu farfelue, tu vois.
Excuse-moi. Bien sûr, il y a toujours des embûches, des trucs comme ça. Mais là, en ayant connu énormément d'amis autour de moi qui ont eu différentes embûches d'un point de vue familial, moi là-dessus, c'était vraiment le bonheur. Et puis le père de la famille de Grandis, pareil, dans la même situation. Donc c'est vrai qu'on était quasiment, c'est vrai, avant que je rentre en pôle et que je sois intégré au pôle de Dijon ou de Nancy ou ici à l'INSEP depuis quasiment 15 ans, j'étais tous les week-ends avec le père de Grandis dans ce qu'on appelait le teuf-teuf. Le teuf-teuf, c'est qu'il avait un vieux trafic aménagé en camping-car. Donc on allait faire nos compètes pour économiser sur l'hôtel parce qu'on allait à 150 km prendre un hôtel le soir. Donc on était deux ou trois, je me rappelle, avec Emilien, avec Pauline, avec deux trois copains du club de la génération. Et ben on dormait tous dans le teuf-teuf parce qu'il y avait une tente, il y avait un hamac, parce qu'on mangeait le matin, on se réveillait, c'est le père de Grandis qui faisait le petit-déj, on faisait notre compète et puis après on rentrait et nos parents nous donnaient totalement confiance à cet homme-là. Et c'est vraiment ça qui a été exceptionnel pour nous, on va dire, dans l'investissement du tir à l'arc, quoi.
C'est génial, tu vois, pour cette passion que peut avoir un papa, tu vois. Alors j'imagine qu'il a poussé son fils à fond, mais qu'il retrouve cette passion pour emmener loin d'autres enfants. Enfin, je trouve ça génial, quoi.
C'est ça qui était génial, c'est quoi, là il y avait son fils en lui-même, et puis qui en s'en servait. C'est pas qu'ils en servaient comme modèle, mais c'est qu'on était le modèle, parce que voilà, il y avait la réussite et il y a toujours la réussite autour de ça, et que du coup c'était transposé à nous. Ben pareil, quoi, c'est non moi ce que j'aime c'est le tir à l'arc, et puis c'est transmettre ça à des athlètes, à mes athlètes, à mes petits. Et ben c'est comme ça, et c'est pour ça aussi, ça fait partie d'un des grands acteurs de ma réussite, c'est sûr.
Et est-ce qu'il y a eu un moment, toi, dans toute cette jeunesse là que tu racontes, et vous avez l'impression que c'est une vraie famille, que vous êtes tous très soudés, que vous viviez des histoires de copains un peu avec beaucoup d'insouciance, j'imagine. Est-ce que toi, il y a eu un moment où tu t'es dit ok, là, je suis quand même avec un des plus grands champions de tir à l'arc qui était champion du monde. Moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose. À quel moment, toi, t'as eu peut-être cette révélation, ou est-ce que t'as eu une révélation déjà, tout simplement?
Je pense que ça a été les premiers déclics quand Jocelyn a fait les Jeux, là. Ouais. Vraiment, de se dire qu'il a fait deux fois les Jeux, Sydney, Athènes, et puis de revenir, de discuter, de se dire, mais les Jeux, tu te rends compte de ce que c'est magique. Je pense que ça a fait partie d'un, je peux pas te dire aujourd'hui, j'ai un déclic en disant, tel moment, telle heure et telle situation a fait que j'ai dit, moi aussi, je veux y être. Parce que c'est pas le cas. Des gens sont certainement comme ça. Beaucoup de gens ont eu un déclic du jour au lendemain sur quelque chose. Moi, c'est pas vraiment ça. Moi, c'est plutôt quelque chose qui a mûri. Je suis plutôt à être assis sur mes acquis et puis que ça vienne, et puis faire attention de, c'est pas attention, mais c'est d'être à peu près sûr de faire ce que je veux du moment que je fasse bien et que je m'y investisse à 100%. C'est un peu ce qu'on nous a inculqué mes parents, et c'est toujours le cas. Et puis je pense que voilà, ça a mûri doucement en se disant, ouais, il va y arriver. Un jour, les premiers jours, je crois que c'était à Istres, mes premiers championnats de France, quand j'étais tout jeune, quand je devais être encore poussin et que j'ai été la première fois champion de France. C'est là que tu montes sur un podium, t'entends une Marseillaise, même si t'es tout jeune, mais t'as des valeurs quand même qui commencent à naître, et tu te dis, mais ouais, que je le fasse là sur cette petite compète ou sur les Jeux Olympiques ou peu importe, c'est pareil, parce qu'en final c'est un truc que j'aime, donc est-ce que j'essaierai pas de le faire à fond? Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'investir, et que j'ai eu la possibilité de rentrer à 16 ans, à 15-16 ans. C'était ma deuxième troisième quand je suis rentré en sport études à Dijon. Quand je dis ma deuxième troisième, c'est parce que en fait j'ai eu mon brevet à Saint-Vite, là où j'étais au collège, et j'ai eu mon brevet, mais pas forcément l'envie. J'étais pas le grand amoureux des études. Et puis de me dire, je dois rentrer après ma troisième. Là, je dois choisir ce que je vais faire. Je vais aller en seconde, les secondes maths, les secondes lettres, les secondes langues, tous ces trucs particuliers pour moi, qui me dit, mais c'est pas ça que c'est pas ça qui me plaira. Donc du coup, on a pris un peu la décision avec mes parents de dire, ouais, mais moi, alors c'est le tir à l'arc, j'ai envie de m'y investir quand même de plus en plus, donc je vais rentrer en pôle à Dijon, mais là, faire le choix de l'orientation des études, c'est pas possible, donc j'aimerais bien redoubler ma troisième.
Ok.
Et du coup, on a pris la décision avec mes parents, ma prof principale, et le fait que je rentrais en pôle et tout, de me dire, bah, j'avais pas 15 de moyenne générale non plus, hein, je devais être à 11, donc ça justifiait aussi un éventuel redoublement, et de dire, bah oui, écoute, je vais redoubler ma troisième, ça me permettra de prendre un an tranquille pour le tir à l'arc, en étant à l'aise au niveau des études parce que je l'ai déjà fait, et puis ça me permettra de choisir un peu plus spécifiquement ce que j'aurai envie un an plus tard. Et là,
c'est super courageux, je trouve.
Bah, c'est, et accompagné de mes parents, surtout ça, que c'était une très très bonne démarche. Et surtout de me rendre compte que ma deuxième, troisième, je suis tombé à 6 de moyenne générale et que j'en avais rien à faire.
Ok.
Voilà. Après, ça a été, je pense, le fait, quoi. Ça a été encore pire parce que le fait d'avoir eu le brevet, je suis tombé dans la même situation qu'un de mes collègues qui rentrait, Edouard Duflo, il s'appelait, qui rentrait, au pôle de tir à l'arc aussi, première ouais. année de pôle. Il a eu le brevet, mais il redouble la troisième. Mais lui, c'est les profs qui avaient conseillé de redoubler, pas parce qu'on avait vraiment un peu fait le choix. Et du coup, on s'est retrouvés les deux en disant, mais, pfff. Les études, c'est vraiment pas un truc qui nous botte, c'est le tir à l'arc. Et on s'est vraiment mis dans le tir à l'arc. Et puis, et ce qui a été et encore, c'est pas parce que j'avais 5-6 de moyenne générale, c'est parce que voilà, j'aimais vraiment pas ça et je voulais pas vraiment m'investir là-dedans. J'étais quand même investi énormément dans le côté vivant. J'étais délégué de classe. J'étais okay. représentant au conseil de discipline du collège parce que c'est des trucs qui me plaisaient. C'est quand même fou que quelqu'un qui avait 5 de moyenne générale soit le délégué. Vous pouvez imaginer ce que j'ai pu entendre sur moi en étant conseil des profs de fin d'année, là. Mais ça a été très constructif et assez tôt aussi pour prendre conscience de ce que j'avais envie de faire et ce que j'aimais. Et puis de me dire, mais en fait, le fait d'avoir 5 de moyenne, là, c'est pas que c'est un échec. C'est juste que je suis en train d'un peu de trouver ma voie et puis faire des études pour peut-être faire quoi et peut-être autre chose après, alors que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps et dont j'en ai des lacunes, c'est pas ça qui me fait plaisir. Et c'est là où j'ai eu la chance d'être orienté sur le pôle de Nancy, qui était à l'époque un pôle France, parce que ouais. Dijon Espoir, Nancy pôle France, et qu'on m'a dit, tu faut monter en pôle France suite à mon niveau de tir à l'arc, qui okay. augmentait une grande à l'aise. Mais au niveau de tes études, là, qu'est-ce que tu veux pas aller en seconde, faire quelque chose avec le niveau que t'as et tout? Et c'est là où j'étais orienté et j'en avais envie de rentrer sur un BEP.
Okay.
Un BEP, donc je suis rentré dans le monde, on va dire, des BEP, le bac pro, professionnel. Avec déjà une orientation très spécifique et qui était une orientation commerciale, quelque chose qui me plaisait énormément. Mes parents ont toujours dit, ils ont toujours été un marchand de tapis, à essayer de chiner n'importe quoi à droite à gauche, à réclamer je sais pas quoi à ses grands-mères et blablabla. Donc du coup, je suis rentré là-dedans et je suis rentré dans un mode éducatif qui était beaucoup plus adapté à mon personnage et j'en suis passé de 5 de moyenne à 18 de moyenne en étant ouais. sport-études, en faisant moins de cours que les autres parce que je me rappelle à Nancy on était intégré à une classe normale avec une pongiste Laura Perrochot, je crois qu'elle s'appelait à l'époque, et on était que les deux sportifs de cette classe-là, donc en fait au lieu d'aller 8 heures de cours par jour on y allait 6 parce qu'on avait les entraînements mais on avait ouais. les études le soir au Krebs de 20h à 22h pour rattraper ces trucs-là, et les quand je dis les normaux, les non-sportifs de la classe jouaient vachement le jeu parce qu'ils nous préparaient les cours ou ils nous mâchaient un peu le travail pour que okay. le jour d'après on récupère, et en fait on était les deux élites de la classe, parce que ce qui comptait c'était pas forcément la faute d'orthographe qu'il y avait à la fin d'une phrase ou à la fin d'un mot et qui me plombait tout mon cursus scolaire complet, mais cette fameuse faute d'orthographe elle comptait qu'à peut-être 10% sur la capacité dans cette éducation là et vu qu'on était excellent ailleurs sur le commerce, sur la vente et sur les investissements au point de vue scolaire là-dessus, bah, je suis passé à avoir 18 de moyenne et puis de m'épanouir et en avoir surtout le plaisir d'aller en cours. Même si ce n'était, quand je dis si ce n'était, ou si ce n'est qu'on peut considérer comme un BEP, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est minoré ou qui est sous-développé. C'est juste que c'est quelque chose qui est adapté différemment et qui est adapté à un public. Et ça, c'était vraiment dans une chose et un tournant dans ma vie qui fait que j'ai toujours été un peu en difficulté et à rechiner d'aller en cours jusqu'à la fin de ma deuxième, troisième, à tomber dans un truc en me disant, mais là, ça me plaît, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, et c'est là où j'ai commencé mes études professionnelles avec okay. le BEP et puis suivi d'un bac pro et qui m'a permis d'obtenir un bac très haut la main avec une mention ouais. ici à l'INSEP.
Vu que tu t'épanouissais enfin après tant d'années, tu vois, dans le cursus universitaire, ça t'a jamais fait douter à abandonner le tir à l'arc ou...
Non, c'était au contraire, c'est très axé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres sportifs qui t'en ont déjà parlé. Et c'est un peu le côté ministériel et puis de l'éducation en France aujourd'hui. Quand on est sportif de haut niveau, on parle ce qu'on appelle beaucoup le double projet.
Ouais.
Le double projet qui soit scolaire. Donc
ouais,
réussite scolaire, réussite sportive, professionnelle, réussite professionnelle ou, et sportive en même temps si on a la chance d'être un sport professionnel ou des deux côtés si on n'a pas la chance d'être un sport professionnel mais qu'on peut s'épanouir dans les deux branches. Et en fait, le fait d'arriver à m'épanouir dans les deux branches, je suis arrivé à un équilibre qui était sensationnel parce que plus j'y arrivais au tir à l'arc, plus j'y arrivais en cours, plus et ainsi de suite. Et en fait, ça a été que crescendo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette passion, elle en est née et que j'en suis jamais sorti. Je pense que là, dans le, eh ben, ça fait 14 ans à l'INSEP, 15, 16 avec mon année à Nancy, mon année à Dijon. Aujourd'hui, il n'y a personne dans le monde du tir à l'arc français qui a fait 16 ans non-stop d'implication sport et études, on va dire fédérale.
Ouais.
Il y en a, Bérangère Chu, qui avait fait une médaille au jeu en 2008 et que l'équipe a fait énormément d'années, peut-être 15, peut-être 16 aussi, mais elle a toujours eu, il y a eu une ou deux périodes où elle a pris un an de off parce qu'elle se posait des questions, parce que est-ce que je vais continuer ou pas, et puis revenir après. Mais il n'y a aucune personne qui a fait un non-stop comme j'ai fait avec, en n'ayant jamais aucun doute. C'est que voilà, c'est les études, je dois passer par ça, je suis d'un seul coup arrivé dans un truc qui m'épanouissait, qui me plaisait, donc le tir à l'arc ça a fait la même chose, et ça a été que croissant comme ça.
Ok, bah écoute, je suis subjugué par tout ça, parce que j'étais pas au courant, pourtant j'ai fait quand même des petites recherches un peu pour apprendre à te connaître, et je savais pas du tout que t'avais eu ce parcours-là. Je sais aujourd'hui que tu travailles à côté de l'INSEP, aujourd'hui ça ressemble à quoi un peu une semaine type pour toi? Parce que du coup, on peut pas vivre à 100% du tir à l'arc, j'ai l'impression, mais...
Donc, une semaine type pour moi et d'un archer. Aujourd'hui, quand on dit, voilà, on se connaît à travers les réseaux et les recherches que tu as pu faire là. Et puis, bien sûr, tout n'est pas mis de A à Z sur Internet. Et c'est sûr que, on est d'accord. Mais c'est sûr que, voilà, le tir à l'arc aujourd'hui n'est pas un sport professionnel comme ça peut l'être pour le football ou pour d'autres sports en France. Donc, forcément, si on veut s'adapter, il faut avoir ce fameux double projet qui s'épanouit. Et puis, quand on arrive à l'âge de rentrer dans le monde professionnel, il faut se débrouiller. Hein. C'est un sujet qu'on a toujours un peu du mal à aborder, que les sportifs et tout, mais pour gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre à Paris, quand on est issu du monde rural et qu'on sait que louer une maison, ça vaut 500 euros pour louer 150 mètres carrés, et qu'aujourd'hui, pour 500 euros à Paris, on a un 12 mètres carrés, et encore, si le lit est superposé. voilà, donc faut comprendre que bah, voilà, vivre ici, ça fait un choix de vie, parce que c'est l'INSEP, c'est l'Institut... qui nous permet de s'entraîner au quotidien et que l'élite est ici. Donc, il faut forcément à un moment arriver à gagner sa vie. Et après, il y a des montages un peu différents qui peuvent être faits. Il y en a qui ont la chance, comme moi, d'avoir depuis des années. Alors, en fait, c'est quand je suis revenu ici à l'INSEP et que je faisais mon BEP, ma dernière année de BEP, de commerce. Je suis rentré à France Archerie, c'est un magasin de tir à l'arc dans le 12e arrondissement, là, à Porte de Vincennes, où j'ai été accueilli en tant que stagiaire vendeur. Et là, je suis tombé sur un patron, Laurent Binello, qui était exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est que c'est voilà, t'arrives là, t'as 16 ans et demi, t'es en deuxième année de bac pro. Bonjour, je fais du tir à l'arc, j'ai une rentrée à l'INSEP, j'aimerais bien venir en stage ici parce que j'ai besoin de faire 3 mois de stage avec mon projet scolaire. Et ben écoute, ouais, viens tel jour, on signe les papiers, pof, t'arrives tel jour, on était mardi matin. Bon ben voilà, le magasin c'est ça. Là, il y a la caisse sur l'ordinateur, t'as les prix et tu fais les factures. Les clients, ils rentrent par la porte. Et ben, écoute, tu prends la journée, tu fais le tour du magasin, tu vois où sont rangés tous les produits, parce que dans un magasin spécifique comme le tir à l'arc, c'est de la vente assistée. Parce que t'es obligé d'accompagner le client. Et bien sûr, il y a 2-3 produits en libre-service, mais après, libre-service, faut quand même passer en caisse. Donc, on fait vraiment ce qu'on appelle une vente assistée. Et puis, ben, on était le mardi soir. Il me fait, ah, t'as fait le tour du magasin? Oui, ben, j'ai un peu compris, j'ai un peu vu. Bon, ben, mercredi, t'es tout seul, parce que moi, de toute façon, le mercredi, je suis pas là. Tu seras avec les deux autres collègues, mais débrouille-toi, quoi. Ça veut dire les clés en main de la boutique, les clés en main du tiroir caisse. Et puis, ben, tu gères, tu fais. On te fait confiance. Voilà. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu te dis, ah, t'es qu'en stage en BEP. Et Et en fait, j'en suis jamais sorti. Quand je dis j'en suis jamais sorti, c'est que l'année qui a suivi, je suis rentré en bac pro. Et pareil, bac pro commerce. Donc, il faut faire des stages et de plus en plus. Donc, j'ai jamais fait de stage ailleurs qu'à France Archerie, avec des différentes missions en fonction de ce qu'on nous demandait de faire comme études, avec des projets, en disant, voilà, plutôt gérer une vitrine, plutôt gérer la clientèle, plutôt gérer du réassort, plutôt gérer la gestion de la boîte. Donc, à chaque fois que je disais à Laurent, bah, j'ai une autre mission, c'est ça. Bah, écoute, on va t'orienter différemment. Et ça m'a permis vraiment de faire mes marques
progresser
jusqu'après la fin de mon bac pro où bah là voilà je commence à être majeur, j'ai un bac en poche, les études, qu'est-ce que je vais faire, bon je vais quand même me lancer dans un BE, c'est le brevet d'état, ouais. Tir à l'arc, parce que c'est sûr que c'est ma passion, et puis autant que on pouvait le faire à l'INSEP, donc c'était le bonheur. Mais en parallèle, Laurent m'a dit écoute, si tu veux travailler un peu ici, tu peux. Donc du coup, okay. J'ai signé mon premier CDI comme ça à mi-temps, où ben j'étais encore jeune, hein, j'avais la moelle. Mais c'est qu'on alliait le matin entraînement. Ouais. J'allais 2 heures en général, 2 ou 3 heures, je faisais du 10h-13h à France Archerie. À 13h, je rentrais. À 14h, on reprenait l'entraînement. Et puis, si c'était pas une journée, une après-midi d'entraînement, c'était une après-midi de cours avec le BE.
Ouais.
Voilà, ça a duré 2 ans comme ça, le temps de faire, d'obtenir mon BE. Et après, ben. Une fois que j'ai eu mon BE en poche, j'ai dit, ben voilà, la Fédé commence, les résultats s'enchaînaient un peu au tir à l'arc aussi. Il y avait de la réussite en compète. Donc, arriver à avoir quelques sponsors qui n'est pas des sponsors et nous permettent de devenir professionnels, mais qui nous permettent de mettre un petit peu de beurre dans les épinards.
Couvrir
les frais, exactement. Et de devenir un peu autonome en vue de ses parents. Parce qu'aujourd'hui, l'INSEP, c'est quand même un institut, on est là, logé à 100%, donc il faut pouvoir le payer son internat. Donc, arrivé à 22, 23 ans, t'as envie d'être un petit peu plus indépendant et autonome de tes parents. Donc, ça me permettait aussi de gagner cette autonomie-là. Et puis, de fil en aiguille, on en est arrivé, jusqu'à de travailler, d'avoir un contrat à plein temps, parce que j'arrivais, on a réussi, entre temps, j'ai eu un changement de club où je suis parti au club de Nîmes pour des raisons professionnelles et d'ambition. C'est juste que le club à Torp, Jocelyn est parti dans sa vie professionnelle aussi, Dimitri aussi. Donc, on n'avait plus le même investissement et le même engagement au sein du club au point de vue national. Donc, moi, on s'en est rendu compte et c'était d'un commun accord que si je voulais pouvoir me servir du temps qu'on prenait, avec le club pour aller faire des compètes nationales, mais que ça me soit bénéfique dans le sport de haut niveau, il fallait que je sois avec une équipe qui était toujours au niveau, comme on l'avait eu, quand cette ambition-là. Et aujourd'hui, avec Torp, on ne pouvait plus parce qu'on n'avait plus assez de monde. Je veux dire, il n'y avait plus que moi, Jocelyn de temps en temps, et c'était de plus en plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'en suis parti à Nîmes. Et puis avec la région, le département du coin là-bas, on a réussi un peu... avec le directeur sportif de Nîmes qui est Olivier Gria, qui est vraiment impliqué dans ce projet-là, c'est d'accompagner ces athlètes pour qu'ils mènent à mieux leur projet sportif. On a réussi à trouver des aides, des financements qui viennent du club, qui viennent de la fédération, qui viennent de la région, du département, qui sont, on va dire, donnés à mon employeur au lieu de me les donner directement comme aide personnalisée que beaucoup de sportifs peuvent avoir pour pouvoir vivre. Ouais. Et puis cet employeur me les redonne, me garantit un CDI, ce qui me permet d'avoir un SMIC, donc rien de d'exceptionnel pour vivre à Paris ici, mais c'est ce qui me permet d'avoir un salaire et surtout de cotiser et d'avoir une situation sociale depuis aujourd'hui maintenant quasiment 8 ans. Donc ça c'était quand même quelque chose qui est très important pour moi parce que ça permet d'avoir les pieds sur terre au niveau professionnel. Après, l'avantage qu'il y a eu de là-dedans avec les années et surtout la médaille olympique en 2016, c'est que ça m'a permis de me dégager de plus en plus de temps de France Archerie. Au début, j'étais à mi-temps présentiel, à mi-temps sur un contrat à plein temps, et de petit à petit, on s'en est éloigné, où je suis libéré de plus en plus pour pouvoir m'entraîner. Et aujourd'hui, on en arrive quasiment à... en présentiel à la boutique une fois par mois parce que j'ai des clients personnels qui veulent vraiment avoir affaire à moi. Je vais toujours au contact pour être un peu avec les clients à la boutique, pour être avec les collègues, et puis je suis beaucoup orienté sur les différents salons et événements qu'on peut faire avec la boutique. Il y a 2-3 salons de la nature, de la chasse, différents salons autour des différentes compétitions sur des championnats de France, le gros tournoi qui a lieu à Nîmes. Donc en général je me balade balade avec cette écharpe et le maillot France Archerie sur ces différentes compétitions en tant que vendeur et appartenant à la boutique. Mais voilà, c'est ce qui fait partie aujourd'hui de mon job. C'est le relationnel et puis l'image avec France Archerie, mais en étant détaché voilà à 95% pour m'entraîner, parce que c'est ça aujourd'hui mon job.
Non mais c'est écoute, merci énormément pour tous les détails, c'est super concret et je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent pas à quel point des fois à quel point il faut savoir composer avec différents employeurs, avec des régions, avec des clubs pour avoir un système vertueux pour tout le monde en fait. Et donc merci franchement pour tous les détails, c'était hyper clair et il y avait moi ça m'a fait sourire à un moment parce que je me suis dit le proprio de France Archerie, il s'est pas rendu compte, mais quand t'as ouvert sa porte la première fois, il a fait un bon mercato quand même. Parce que j'imagine que c'est un bon ambassadeur d'avoir, après un champion du monde et médaille olympique, parmi son équipe.
Bah, bien sûr. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'aujourd'hui de dire que c'est un 95% pour m'entraîner. Mais bien sûr que cette image est rentrée là-dedans. Aujourd'hui, j'aurais pas eu un si gros palmarès. Ce serait peut-être pas forcément ça. Parce qu'aujourd'hui, cette image à la boutique est quand même très importante et c'est ça qui me permet aussi d'être libéré autant.
Non, et puis le fait aussi que t'es... Alors, je sais pas à quel point lui, il a contribué à toutes tes performances, mais tu vois, je pense que il t'a fait confiance, ça permet de développer plein de choses. Je pense qu'au niveau du matos, il a dû pouvoir te conseiller.
Bien sûr, c'est ça. C'est ça l'avantage, c'est qu'on est dans ce truc très spécifique du tir à l'arc et j'étais complètement noyé dans ce que j'aime. Que ce soit au tir à l'arc à l'entraînement à l'INSEP, que ce soit dans mon job à côté. Et je côtoyais, c'est quelque chose qui a été très important aussi pour moi, je pense. C'est que je n'étais pas totalement et uniquement dans le monde du sport et du tir à l'arc à haut niveau. INSEP, je me lève le matin, je m'entraîne, je me recouche le soir et je recommence le lendemain.
Il y en a qui sont comme ça.
Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui ont besoin de ça et il y en a qui sont comme ça et qui, je pense, seraient mieux en faisant autre chose. Ça, c'est un avis personnel et moi, c'était mon cas. C'est que des fois, je me retrouvais à France Archerie avec un client du club qui connaissait rien au tir à l'arc, mais qui avait envie de parler, de se dire comment ça marche, comment ça, puis t'es là, t'expliques, et comme des vieux de la vieille qui font du tir à l'arc depuis 70 ans, ou toi, petit couillon, ça fait 15 ans que tu fais du tir à l'arc, t'as beau avoir fait des médailles sur les championnats du monde ou tout, il en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est de dire, non mais moi, ce que tu me racontes, c'est du pipeau, je m'en fous que t'aies fait une médaille, je sais pas où, ça n'a rien à voir, moi c'est flèche, c'est celle-là que je veux, même si elles sont pas adaptées à mon arc, c'est celle-là que j'ai depuis 15 ans, 20 ans, donc c'est celle-là que je veux. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire face à quelqu'un comme ça? Et en fait, ça a été extrêmement enrichissant pour moi, parce que ça m'a même donné envie, et c'est ce que j'ai fait depuis un bout de temps, c'est que quand j'ai eu mon BE, je me suis permis aussi d'entraîner des clubs. J'ai entraîné le club de Morangis, très longtemps, et le club de Michel Binello, qui est la SRTL, qui est du côté de Gare de Lyon, et qui est en fait le club et le président, c'est le père de Laurent Binello qui m'avait embauché à France Archerie. Okay. Donc c'était un petit peu le club qui était rattaché un peu à la boutique, et j'en suis arrivé à entraîner le mercredi, le jeudi soir là-bas de 20h à 22h, et puis tu fais des rencontres et des choses énormes qui reste dans le contexte tir à l'arc, parce que tu entraînes un club de tir à l'arc, mais qui te fait découvrir et voir un horizon totalement différent que le monde du tir à l'arc dans lequel tu baignes à haut niveau, de matin, midi, soir, ici à l'INSEP. Et je pense que ça, c'est des choses qui m'ont vraiment apporté et qui m'ont fait avancer, quoi. Et avancer, c'est aussi relativiser de plein de choses. Et puis aussi sur l'apprentissage du tir à l'arc en lui-même. C'est comme je disais tout à l'heure, le petit vieux de la vieille qui arrive à la boutique et qui veut telle flèche, mais c'était la même situation quand on arrivait dans un club. J'ai passé mon BE et forcément quand tu passes ton brevet d'état, on t'inculque la ligne fédérale. Tu dois apprendre à faire tirer les gens à l'arc comme ça, la technique c'est ça, et puis c'est normé. Et voilà. Sauf que moi, quand j'ai appris à tirer à l'arc avec le père de Randis, c'est pareil, on n'était pas totalement normé. Il y a des trucs qu'on peut faire. Il y a un moment quand on tire et que notre coude, il doit aller vraiment derrière, mais pas trop loin. Quand je dis derrière, c'est le moment où on lâche la corde, le coude il recule, mais il fallait pas qu'il aille trop loin, parce que s'il va trop loin et trop brusque, la main à laquelle on lâche la corde s'écartait, et puis c'était un problème que je pêchais là-dessus assez souvent. Et je me rappelle avoir fait des séances d'entraînement collées à un mur. Et okay. au moment où je lâchais ma corde et que mon coude, il s'explosait dans le mur, bah, tu le fais deux fois. Et puis, il me dit, non, tu restes une semaine contre ton mur. Et puis, au bout d'une semaine, bah, t'inquiète que ton coude, il reculait pas. Ça, tu vas pas le voir écrit dans un manuel de la Fédération internationale ou nationale de tir à l'arc, bien sûr. Mais ça, c'est des trucs très originaux et puis que j'ai retrouvé dans des parallèles en entraînant ce club-là ou à ces clubs-là où t'arrives, dans un club, tu te dis, voilà, j'ai 25 ans, j'ai fait du tir à l'arc au niveau, je fais ça tous les jours, je fais 5 ans que je suis vendeur dans une boutique, je sais ce que c'est qu'un arc. Et que là, t'as quelqu'un qui arrive, qui a un arc, qui est son arc, et puis qui te dit, oh, mon petit gars, ça fait 40 ans que je tire, 40 ans que j'ai cet arc-là, et que ça bougera pas. Et que tu vois que le mec, il a une technique qui est c'est péjoratif quand je dis ça, mais qui est dégueulasse. Qui est dégueulasse dans le monde du haut niveau, mais pas très académique. Mais que toi, mais qu'est-ce que tu veux apporter à cette personne-là? C'est ça qui fait l'amour et le charme du sport et du tir à l'arc. C'est que tout le monde peut faire un peu, tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est que bien sûr, si tu veux devenir performant et avoir un très très haut niveau, tu dois rentrer dans une certaine ligne. Mais tu peux aussi faire du tir à l'arc et prendre ton arc et puis aller le mercredi soir t'amuser avec tes copains, même si ta technique est pas forcément très bonne et que t'as pas une ambition d'aller gagner les championnats du monde, et ben, tu te fais plaisir. Et moi, en arrivant là, en se disant, oui, ben, monsieur, votre technique, là, il me regarde, quoi, ma technique? Et là, tu te dis, ah ouais, non. Bah, la technique, elle est parfaite pour lui. Donc, c'est pas qu'il y a rien à dire, mais c'est que du coup, t'essayais de mélanger tout ça en lui disant, écoute, bien sûr, je vais pas vous apporter quelque chose. Je vais pas vous dire, faut pas que ta main, elle passe à ce niveau-là sous ton menton. Et du coup, tu seras plus performant et plus régulier. Si ta main, elle est toujours passée par le dessus du menton, je vais pas, au bout de 30 ans, amuser à te faire changer. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est que quand ta main, elle passe par dessus le menton, et ben, au moment où tu lâches, hop, qu'elle redevienne en dessous. Et puis, t'essayes de faire un peu des micmacs comme ça. Puis, tu voyais que les gens, qui ont 40, 50 ans de plus que toi, étaient vachement réceptif à ce que tu disais. Et là, tu te dis, ben ouais, en fait, ce que je dis, ça percute. Et c'est vrai qu'au final, c'est un truc qui me plaît, d'essayer de faire un micmac comme ça. Et puis, bah, du coup, tu fais aussi un peu le parallèle ici à l'INSEP. Parce que bien sûr, tu as le côté normé du sport de haut niveau et de tout ce que tu dois faire et de tout ce que tu as à faire. Mais quand tu as un entraîneur, des fois, qui te dit quelque chose, mais que tu ne le comprends pas. Pour X raisons, il y a beaucoup d'athlètes qui sont comme ça. Je vois souvent un peu des jeunes qui disent, qui se plaignent tous les soirs après au restaurant. Ah, ce qu'il m'a dit aujourd'hui, c'est incohérent, je comprends pas et tout. Mais dis-le, parle-en et essaye de trouver quelque chose avec. Qu'au lieu de subir ça pendant 6 mois et au bout de 6 mois exploser, de dire bah le tir à l'arc ça me plaît plus, je veux faire autre chose. Et en fait, c'est tous des petits trucs qui se sont mis en place pour moi, qu'on fait que bah je m'en suis épanoui comme ça du tir à l'arc et que j'en suis jamais sorti parce que j'ai réussi à ouvrir l'œil sur tout et tout ce qui tournait autour de ça.
Ok. Il y avait un sujet qui m'intéressait aussi énormément, c'est cette capacité qu'ont les archers à se concentrer et à être dans leur bulle. Alors, j'ai entendu dans une petite interview de toi que entre le moment où tu mets la flèche sur l'arc et que tu vas la tirer et que tu vas en viser, ça dure entre 6 et 12 secondes. Et toi, en 6 à 12 secondes, tu fais le vide dans ta tête, si je comprends bien. Alors, j'ai plein de questions par rapport à ça, mais la première, c'est comment tu fais? À quoi tu penses à ce moment-là?
Alors, en fait, avec toutes ces années, je suis très dissipé comme garçon.
Ok.
Feignant, un petit peu. Quand je dis feignant, voilà, par rapport au foot, de ce qu'on parlait de début. Après, je suis sportif de haut niveau, donc je me suis quand même investi. Quand je dis feignant, c'est que voilà, je me connais. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup plus que moi, bien entendu. Mais moi, je connais mes limites et je sais ce que j'ai besoin de faire pour être performant. Par contre, c'est vraiment le côté intellectuel qui est très important au tir à l'arc. C'est ça un truc qui m'a fait plus aussi, c'est que on n'est pas, déjà, on est un sport qui se pratique individuellement et par équipe, donc on peut pratiquer les deux. Mais avant tout, c'est que c'est un sport individuel, même si t'es par équipe. C'est que ton propre ennemi, c'est toi-même. T'es pas en train d'avoir à faire de la boxe. Et puis d'avoir le mec en face de toi. Et si le mec, il chope un vertige et que toi, t'en profites pour le mettre KO, bah voilà. T'as beau ne pas être très performant, tu vas y arriver. Le tir à l'arc, t'es vraiment, le plus grand ennemi, c'est toi-même. C'est-à-dire que même si ton ennemi en face, il est pas très bon, si toi, tu décides de lâcher ta flèche n'importe comment, bah, elle va pas arriver au milieu de la cible. Donc, c'est vraiment, tout dépend dans un premier temps de toi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis avec les différentes années, avec mon entraîneur que j'avais depuis le début ici à l'INSEP, qui a changé il y a maintenant bientôt 3 ans pour des questions politiques. Et puis voilà, nous, en tant qu'athlètes, on subit ça et on n'en a pas le choix, mais on s'adapte très bien. Et Marc Dellenbach, là, quand je suis rentré ici à l'INSEP, on a fait 10 ans ensemble, 10 ans d'entraînement au quotidien. C'est vrai que quand je dis ça et quand il disait ça, on en a parlé, mais c'est vrai qu'en 10 ans de temps, Marc, il a passé plus de temps avec moi qu'avec sa femme. Parce que Marc, il était là le matin à 9h, il repartait le soir à 19h, et puis une semaine par mois, voire même plus, on était en compétition à l'autre bout du monde ensemble, tout le temps, pendant 10 ans. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un entraîneur et un athlète qui ont passé plus de temps ensemble qu'avec leurs proches.
Et toi aussi, d'ailleurs.
Et puis moi aussi, d'ailleurs. Donc forcément, tu commences et t'apprends à te connaître. Et puis de se dire aussi comment on va travailler pour... Avec les fils des années, écoute, ce qui manque, c'est ça physiquement, tu travailles physiquement, c'est ça techniquement, tu travailles techniquement, et puis avec la chance que j'ai, c'est quoi là, c'est de ne pas avoir changé, c'est d'être dans cette bulle-là depuis 10 ans, d'en avoir trouvé vraiment les points faibles, les points forts à mettre en avant, les points faibles à travailler, et puis ce côté mental qui reprend quasiment 50% de la performance technique du tir à l'arc, parce que c'est 50% technique physique et 50% mental, pour moi, c'est mon estimation, et que ce que beaucoup de gens pensent et disent aussi, c'est de vraiment travailler là-dessus, c'est d'être capable de faire ce que, comme tu disais tout à l'heure, cette fameuse bulle, de rentrer dans cette fameuse bulle, mais tout en sachant que je suis quelqu'un qui est extrêmement dissipé. Ça veut dire dissipé, moi j'aime la nature, j'aime tout ce qui tourne autour de ça. Quand je suis sur un pas de tir et prêt à tirer une flèche, si d'un seul coup il y a un pigeon qui passe un peu près de ma tête, oui, je vais regarder le pigeon parce que je m'imagine peut-être un jour à la chasse, je m'imagine peut-être un jour à la pêche parce que ce pigeon il s'est posé au bord d'une rivière parce qu'on est en train de tirer au bord de la rivière et qu'il est en train de boire. Et là tu te dis, ouais, mais en fait je serais bien au bord de l'eau avec ma canne à pêche en train de pêcher. Et là tu te dis, mais merde, dans 2 secondes, je dois tirer une flèche et la mettre au milieu. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était tout le temps pour moi. Je suis en train de tirer une flèche, il y a un archer 10 mètres plus loin sur le pas de tir qui fait une mauvaise flèche et qui tape son arc par terre parce que il exprime sa rage par une violence matérielle, quelque chose que je ne conçois pas du tout. Mais ça arrive, bien entendu. Hein. Et ça, c'est pas que ça me perturbe, c'est que je fais dans ma tête, mais je dis, mais pourquoi lui, il va s'en prendre à son matos et tout. Et là, tu te dis, ce que je te raconte, ce que j'ai, ah ouais, mais merde. Je suis en train de tirer, je dois tirer ma flèche. Et je me suis rendu compte que ça, je m'en sortirai jamais et que c'est tout le temps. Donc j'ai énormément travaillé sur la capacité à faire un reset et un blackout total à partir du moment où je le décide et jusqu'à ce que je lâche ma flèche. Il y en a qui ont pas besoin, il y en a qui vont avoir besoin au tir à l'arc d'être concentrés de A à Z sur leur journée. Le matin 7h à 19h jusqu'à la fin de la compète.
Toi, tu peux pas, toi.
Moi, c'est strictement impossible. Il y en a qui vont le faire sur une volée. Une volée, quand on est en compète, on tire 6 flèches et on va chercher les flèches, ça fait un score sur 60. Il y en a qui vont le faire faut se concentrer sur la volée. Moi, c'est impossible. Même sur une volée, c'est trop. C'est pas grand chose. On a 4 minutes, mais c'est trop. Je sais que quand je suis 4 minutes sur le pas de tir, il y a toujours un truc que je vois, un truc que je pense, un truc que j'entends. Donc, on en a bien déduit que c'en était impossible pour moi. Donc, on en était arrivé à dire, tu dois être capable, flèche par flèche, chacun son rythme, et toi, c'est flèche par flèche. Et c'est comme ça que j'en arrive à être dans cette fameuse bulle. Parce qu'au lieu d'être à 100%, de la première seconde jusqu'à la fin des 4 minutes sur les 6 flèches à tirer, je préfère être à 250% sur les 6 à 12 secondes de chaque flèche, qui est forcément beaucoup plus intense, mais qui pour moi est plus simple à faire que de me concentrer à ces fameuses 4 minutes.
Et il y a des exercices, ça se travaille. Comment...
Je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de façons différentes de les travailler, des gens qui de les travailler. Moi aujourd'hui, je suis pas en train de dire qu'un archer doit faire ça.
Ouais.
Moi je dis que c'est ça qui me convient. Et moi, comment j'en suis arrivé? On en a déduit ça, avec de l'échange avec Marc, de l'échange avec les différents coachs intervenants que j'ai pu avoir dans ma vie de sportif de haut niveau. Et quand je dis sportif, c'est que avec d'autres aussi, d'autres sports, le fait d'être ici à l'INSEP, le fait de participer à certains événements où tous les sports et tous les grands champions sont mélangés, ça permet beaucoup aussi de... Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, moi. Qui écoute, j'entends et je prends et je mélange et je ressors ce qui me plaît, ce que j'ai envie. Et ça fait partie des choses de certains sportifs qui disaient, ben faut, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, moi je fais comme ça, et moi je me dis, ouais, mais moi si je prends ça de lui, ça de lui, ça de lui, que je le mélange à ma sauce, ça donnera ça, et ça, ce sera peut-être mon moi. Et en fait, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé.
Okay.
Et que j'ai mis en avant et qu'on a travaillé avec aussi des, on a fait un peu de sophrologie ici, de la prépa mentale, un petit peu de préparation psychologique avec un psychologue du sport, vraiment pour essayer. Je suis assez autonome comme garçon de ce point de vue là, mais j'ai eu besoin de trouver cette fameuse autonomie.
Okay.
Et je l'ai trouvé, ben voilà, en faisant mon petit micmac avec tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entrepris et tout ce qu'on a travaillé pour à un point arriver en disant que voilà, moi je suis capable de faire ça, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis ben voilà, j'ai des différents déclencheurs. Quand je suis sur le pas de tir, je sais que ça va être très compliqué parce que on est sur une finale d'un championnat du monde ou plein d'autres choses, mais que j'ai besoin là de ces 6 secondes là qui avancent, qui arrivent, ben c'est de mettre toute ma tête en off de tout ce qui tourne autour, mais d'être à 100% sur le tir à l'arc pendant ces 6, 8 ou 10 secondes là. Et j'ai différents capteurs, quand je dis capteurs, c'est les capteurs sensoriels et différents exercices qui font que là, ben voilà, je mets les doigts sur la corde, je suis prêt à tirer et je pense à ça, je sais qu'il y a ça et j'ai ma flèche à tirer. Et puis il y a le côté rassuré de toute façon, ça va durer que 6 secondes, ça va durer que 8 secondes. Et du coup, je reste là-dessus, pouf, et au moment où la flèche part et qu'elle arrive en cible, peut repenser peut-être à mon pigeon ou à n'importe quoi d'autre avant même de penser à ce que ma flèche soit arrivée dans le centre ou pas de la cible, quoi. Mais parce que voilà, je sais, c'est comme ça, on l'a travaillé, et c'est ces différents petits points qu'on a mis en place pour moi personnellement qui me permettent de basculer très rapidement. Alors après, des trucs un petit peu concrets, je parle vraiment personnel, mais j'ai travaillé beaucoup sur de la cohérence cardiaque et de la respiration avec le cœur, ouais. Ce qui permet vraiment de se mettre un peu en phase, en état de neutralité, essayer d'atteindre le plus facilement ce qu'on appelle la zone de flow. Le flow, c'est que on sait pas trop, tout marche bien, tout est beau, mais pourquoi, mais comment, c'est pas grave, on le prend, ça vient. Donc on rentre là-dedans, et puis à partir du moment où j'ai les doigts qui sont sur la corde et que là j'ai plus que ça à faire, et dans ma tête j'ai différentes petites choses auxquelles je pense, une respiration à travers le cœur, j'imagine, que je visualise, et hop, tous ces deux, trois petits points que je mets l'un derrière l'autre, qui durent entre une et une seconde et demie, font que, pof, je bascule dans ma zone de no man's land, quoi.
Ok, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je suis vraiment à la fois admiratif et... Attends, peut-être qu'on peut... Je crois qu'on... Il y a des gens juste dehors, tu veux leur ouvrir pour...
Non, non, je...
Ok.
Vous avez besoin de quelque chose, là?
Non, ok, très bien. Ouais, non, je suis hyper admiratif parce que, en fait, j'ai l'impression. Est-ce que tu connais Nathan Paulin?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Alors, t'es pas obligé de le connaître.
Ça me dit quelque chose.
Alors, il a le record du monde de la personne qui marche le plus longtemps sur un fil. Au-dessus d'une falaise.
Ah, ça me dit quelque chose. J'ai des gens, voilà. Quand je dis ça me dit quelque chose, c'est que c'est peut-être dommage de ne pas en savoir plus, mais j'avais déjà entendu ce mot.
Et tu vois, bon, tu l'as peut-être vu pour le Téléthon, il a fait une traversée de la Tour Eiffel au Trocadéro, il a un record sur plus de 2,5 km. Donc, tu t'imagines 2,5 km au milieu du vide à marcher sur un fil. Mmh. Et quand on a discuté, Il m'a raconté qu'à l'école, c'était l'élève le plus rêveur et que tous ses profs mettaient sur ses carnets de liaison « passe plus de temps à regarder par la fenêtre que à se concentrer sur sa copie », ce genre de choses. Et il a réussi à trouver... Alors, c'est pas du tout pareil. Lui, c'est pas 6 secondes, tu vois. C'est être capable de le faire sur 10 minutes, 15 minutes, voire un peu plus. Mais à avoir toute cette énergie où il rêve à d'un seul coup, en fait, le... le fermer à ne penser plus à rien d'autre. Et j'ai l'impression, alors dis-moi, est-ce que c'est une impression qui est mauvaise parce que y a un biais, que j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, mais que plus il y a un potentiel à être dissipé ou à être déconcentré, plus derrière il y a un potentiel très fort à l'inverse, à se concentrer et à faire le vide. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une corrélation.
Bien sûr, je pense que de toute façon, un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui a une quelque chose d'atypique, une personnalité qui sort de la norme. Bien sûr, il y a des personnes qui ont réussi dans le monde du sport avec une normalité. Voilà. Mais je pense qu'il y a plus de cas exceptionnels et de divergents. Quand je dis divergents, c'est que dans tout, que ce soit le mode de vie, le mode d'esprit, et qui sont tellement d'écart qui fait que il y a des personnalités vraiment différentes qui réussissent dans le sport et qui font des gros résultats. Et mais je pense que oui, ce côté un peu dissipé, un peu dans la lune, c'est pas dans la lune, mais c'est vraiment que t'as une capacité forte, en fait. Et je pense que tout est aussi orienté de la visualisation, mais orienté sur la volonté. Je crois que de toute façon, il y a une question d'éducation, il y a une question de comment t'as été élevé, comment t'étais jeune, comment tu vivais le truc. Quand t'es dans le côté un peu passif, ouais, je sais pas, je subis, je prends, t'es dans la norme, tout se passe bien de A à Z, c'est bien. Mais je pense que pour réussir dans le sport du haut niveau, il te faut de l'exceptionnalité là-dedans. Tu peux pas dire, je vais réciter mon alphabet de A à Z et puis pas faire une bourre là-dedans et tout, et de marcher droit, quoi. Mon alphabet, quand j'arriverai à F, je vais m'arrêter parce que j'ai envie d'aller faire des nombres et faire des chiffres. Forcément, c'est des trucs un peu comme ça. Moi, je me rappelle au point de vue, toi, tu fais un peu le parallèle avec les cours et son carnet, mais moi, j'avais une personnalité puis une décision. Je me rappellerai toujours mes carnets de liaison, comme tu pouvais dire avant, de mes cours d'espagnol, deuxième langue, quand t'es en quatrième, troisième. J'avais déjà tellement de mal avec le français, tellement de mal avec l'anglais, et là j'arrive en quatrième, on remène deuxième langue, en espagnol. Et je me dis, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que je voulais? Et je me rappellerai toujours d'une phrase qu'avait mis ma prof d'espagnol, je me rappelle plus son nom, absent mais présent. Mais c'est voilà le commentaire absent mais présent, et ça voulait dire totalement, c'est que les cours ils sont là, j'ai pas le choix, je me mettais au fond de la salle et puis j'étais dans mon monde. Qu'est-ce qu'on voulait, j'avais 0,5 ou 2 de moyenne parce que j'écrivais mon nom, et puis avant que la prof regarde, je regardais la réponse à la première question sur ma voisine, et puis ça me faisait pas avoir un 0, et voilà quoi. Et mais j'avais décidé, de toute façon, quoi qu'on fasse, on aurait pu me dire mais tu sors pas de la salle tant que t'auras pas appris l'espagnol, tant pis, j'aurais dormi dans la salle. Et parce que qu'est-ce que vous voulez que je me lance là-dedans? Et en fait, je pense que ça faisait partie, la petite relation par rapport à la personne d'avant. Mais pareil, c'est que c'est une personnalité, quoi. C'est quelque chose d'atypique qui forme de l'atypique. Tu fais pas de l'atypique avec de la normalité.
Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En tout cas, c'est pour avoir maintenant rencontré quasiment une centaine de sportifs de haut niveau. Tout le monde est un peu unique, tu vois, on est tous les êtres humains sont uniques, mais les sportifs de haut niveau ont cette façon de cultiver leur unicité qui est très forte, et de peu importe dans quel style de personnalité ils sont uniques, mais ils utilisent ce style en tout cas à fond, où ils poussent leur qualité à leur paroxysme, tu vois, je trouve. Et d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que dans le tir à l'arc, je te demande ça parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai interviewé un pilote de chasse. Je suis sorti du contexte du sport exceptionnellement. J'avais envie de rencontrer un pilote, et on s'est rendu compte que dans les pilotes de chasse, il y avait un type de personnalité très 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 précis et unique. Tu sais, je sais pas si t'as déjà fait des tests de personnalité comme le DISC, le MBTI avec des couleurs ou quoi, ça te dit rien.
Non.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose de similaire dans le tir à l'arc? Est-ce que au niveau des personnalités parmi les grands champions, tu vois, ça va être, je sais pas, des personnalités très calmes ou...
Non. Si on prend ce que tu veux dire,
très ingénieur.
Je pourrais pas te dire. Si on se mettait tous en ligne, là, tous ceux qui ont fait du tir à l'arc au niveau à faire un test et à faire justement des tests de personnalité pour ça, peut-être qu'on sera tous dans la même norme, la même case, sans doute. Mais aujourd'hui, j'en sais rien parce que déjà on l'a pas fait. Et je pense pas. Je vois, comme je disais tout à l'heure, le tir à l'arc, c'est un sport individuel et par équipe. On a la chance de pouvoir faire ça, voire même maintenant en mixte, parce que c'est rentré pour les prochains JO en mixte. Donc, on aura 3 épreuves. Mais le côté par équipe, nous, moi, j'ai fait 4 médailles au championnat du monde par équipe, avec une équipe différente à chaque fois. Le seul point commun à cette équipe, c'est que ben voilà, j'en étais dedans, avec des collègues, des archers, qui sont des compagnons d'entraînement, qui sont des adversaires, parce que le lundi, on est l'un contre l'autre en individuel, le mardi, on est coéquipier, et puis le mercredi, on se retrouve adversaires, parce que ben, les finales des matchs individuels ont lieu après les matchs par équipe. Donc ça, c'est une originalité du truc. Et tous ces différents athlètes, ces différents collègues, ces différents copains que j'ai pu côtoyer dans mes 10 ans de haut niveau sur les compétitions internationales, que ce soit junior ou même senior, hein, déjà avant en junior, on avait ce système par équipe, toutes les personnalités étaient différentes. Ouais. Donc quand je dis étaient différentes, c'est que ben voilà, aujourd'hui, il y en a qui sont fans de réseaux sociaux et de passer leur soirée devant un ordinateur à jouer à un jeu derrière un écran. D'autres qui, ben comme moi, qui vont avoir horreur de ça et qui vont préférer prendre ma paire de jumelles et aller me mettre à la lisière d'une forêt pour aller observer le brame du cerf comme il y avait le mois dernier. Ou d'autres qui rêvent que d'un truc, c'est d'attendre 22 heures parce qu'il a envie d'aller un coup en boîte de nuit. Bon, je dis ça, c'est un peu extrême parce que c'est pas compatible avec le sport du haut niveau, mais t'en as qui c'est ça qu'ils aiment, ou ils attendent le week-end pour ça. Je veux dire, voilà. Et moi, j'ai vécu ces situations-là avec des passions totalement différentes et divergentes et des avis différents et divergents au sein de la même équipe qui font que non, on n'a pas, en tout cas pour le tir à l'arc, c'est impossible. Je pense pas qu'on ait tous la même personnalité. Après, ce qui fait la force d'une équipe, quand on est les 3 ensemble pour aller gagner une compète, c'est que ces 3 archers-là sont un peu dans des sportifs individuels, comme je le suis, comme j'ai expliqué, ou comme tu en as conclu, qu'on devait rentrer un peu dans notre bulle. Et en fait, quand tu en rentres dans le tir par équipe, je pense que la force assez commune des archers, c'est pour ça qu'on y arrive bien par équipe, que ça a toujours bien marché, c'est que en fait, ces 3 personnalités atypiques différentes sont capables de créer une bulle ensemble au moment du tir. C'est-à-dire que tu peux presque être même... Tu sais, tu te retrouves en équipe de France. Équipe de France, tu la choisis pas en disant « lui, c'est mon pote ». L'équipe de France, c'est qu'on est 15 à avoir un bon niveau, à faire des sélections pendant 2, 3, 4 jours, voire même une semaine, et ils en sortent les 3 meilleurs. Et ces 3 meilleurs-là, ben, y en a un... Il y a le deuxième, mais le deuxième, c'est presque le pire ennemi du troisième parce qu'il y a 6 mois, il a pris sa copine ou autre chose. Et ça, moi, je l'ai vécu, ces situations-là. Mais peu importe. C'est ça la force et c'est peut-être ça le côté, le point commun qu'on peut arriver à retrouver chez les archers, comme si c'est ce que tu demandais. C'est que au moment où on va prendre notre arc et que là, on se retrouve sur une ligne, en disant bah on est par équipe et de toute façon c'est le résultat des 3 qui va compter et pas d'un, et bah t'es capable de faire totalement cette bulle là et puis d'y aller ensemble comme si l'archer faisait qu'un, quoi. Même si un quart d'heure après, descendu du podium, si t'as eu une médaille, personne se parle parce que il y a pas d'infinité, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, tu descends d'un podium, ça peut recréer des liens, mais c'est un peu, je pense, ce point commun qu'il y a, c'est les archers, c'est d'être capable de rentrer dans cette bulle ensemble au moment où il faut.
Ok. Et écoute, c'est hyper intéressant la manière dont tu abordes à la fois cette famille et à la fois effectivement des fois cette paradoxalité entre les différents statuts de relation, un jour coéquipier, un jour adversaire. Ça m'amène à une question, je t'en avais parlé au tout début, c'était sur ton grand rival qui s'appelle Brady Ellison, j'espère que j'ai pas écorché son nom, qui est américain.
Ouais,
américain, c'est bien ça. Et ça fait plusieurs années que vous vous tirez la bourre. Très souvent, vous êtes tous les deux sur les 2 premières places du podium.
Alors, aujourd'hui, Brady est très très fort. Aujourd'hui, on peut le dire, son palmarès est gigantesque par rapport au mien dans le monde du tir à l'arc. Il a plusieurs médailles olympiques, équipe et individuelle. Mais mine de rien, comme tu dis, oui, je suis quand même arrivé devant lui au jeu de Rio. Après, quand on dit, c'est qu'on a la même, on est issu de la même génération. On a commencé à se côtoyer sur les compètes juniors où lui était encore en arc à poulie. Ça veut dire que c'est un arc différent de celui qu'on a. Et puis un jour, il a décidé de dire non, mais moi, je veux faire les Jeux Olympiques, faut que je me mette en classique. Donc il a commencé à se mettre en classique. Okay. Donc ça, c'était voilà, le côté aussi un peu atypique d'un personnage qui a dit maintenant, moi, je veux faire les Jeux. Du coup, je vais changer d'arme. Et donc toi, ça reprend le côté un peu atypique des grands champions dans tous les sports. Et en fait, c'est dommage que c'est un frein, je parle très mal anglais. Bien sûr, quand on a une soirée, qu'on a bu 3 bières, ça va beaucoup mieux. Mais avant, et vu que ça, c'est que le dernier soir, t'as pas le même échange tout au long de la semaine quand t'es sur une compète, donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est, en fait, on a énormément de points communs. C'est surtout que, il aime la nature, il aime la pêche, il aime la chasse, il aime être dans les bois. Et en fait, quand on a commencé un peu, on était assez proche assez souvent parce que on se retrouvait un peu dans les mêmes situations. Je veux dire, voilà, moi j'aimais bien tirer avec, de temps en temps j'avais une casquette de couleur camo parce que c'était une marque de pêche qui me plaisait bien, et puis lui aussi, et puis qu'un an après les différentes instances estiment que ça portait pas des bonnes valeurs sportives, donc on mis des règlements en place pour interdire la couleur camo que ouais. Voilà, je peux comprendre, mais je veux dire, il y a plein de petits points communs comme ça qui font qu'on on s'est un petit peu rapprochés, et puis qu'on est un peu dans les mêmes situations d'originalité du personnage. Mmh. C'est pour ça qu'on est un peu, on a tendance souvent à dire et à nous comparer ou nous rapprocher. Et puis après, forcément, quand t'es en compète, Coupe du Monde, Championnat du Monde ou Jeux Olympiques, il n'y a pas 100 000 athlètes. Hein. Donc forcément, il y a trois Français, il y a 3 Américains. Donc quand tu fais partie de ces trois-là, t'es toujours en concurrence. Et il y a eu beaucoup de compètes, oui, ou sur les phases finales, on arrive à se rencontrer et puis à tirer les uns l'un contre l'autre. Il y a eu, des fois c'est lui qui gagnait, des fois c'est moi qui gagnais, et puis c'était assez sympa, c'est assez ludique comme petite relation, parce qu'il n'y a pas vraiment d'animosité, il y a vraiment qu'un côté sportif qui prend le dessus par rapport à l'autre. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Voilà, c'est que du bonheur de pouvoir partager un peu, avec juste le regret de ne pas être assez bon dans la langue pour pouvoir échanger sur des sujets comme on est en train de le faire ensemble, mais quand même de pouvoir échanger sur certaines passions, sur certains trucs, ça va, la barrière de la langue, on y arrive encore, mais on peut pas l'approfondir. Je pense que ça, c'est un de mes regrets.
Et lui, il parle pas français. Hein.
Voilà, et lui, il parle pas français aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un de mes regrets, parce que typiquement, ça pourrait être aujourd'hui un de mes grands amis. Et de se dire, je serai une fois, une semaine, tous les 3 mois aux US, parce qu'on va s'entraîner ensemble, parce qu'on va faire un truc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que voilà, il y a cette fameuse barrière de la langue, et que j'en suis jamais allé chercher plus loin.
Ok, mais c'est marrant que tu puisses dire que ça aurait pu être un de tes meilleurs copains, quoi. Et en même temps, quand on vous voit tous les deux, ça se voit. Enfin, tu l'as dit, il y a plein de points communs. Vous avez une sensibilité, je pense, très proche, et une façon de vous comporter qui est assez similaire. Et en plus, si tu me dis que vous avez les mêmes passions, enfin, d'autres passions et d'autres points communs, enfin, vraiment, ça se voit, quoi.
Ouais,
et on sent beaucoup de respect.
C'est vrai,
quoi.
T'as un peu un parallèle entre ces deux-là. Où moi, il y en a qui disent t'es l'Américain, t'es le Valadon aux USA, et puis moi, ils me disent t'es le Brady en France, toi. Ainsi, bon, mais c'est parce que voilà, on a une personnalité atypique qui plaît qui est original et qui change, on va dire, du cadre. Donc forcément, ça marque un petit peu plus que voilà, quand tu fais un interview parce que t'as gagné une compète, et tu dis voilà, c'est, je me lève le matin, je vais à l'entraînement, je mange, je me recouche le soir, et puis je recommence le lendemain, puis la semaine d'après je vais en compète. Voilà, c'est bien sûr, t'as gagné une compète, t'as mis ton esprit sportif en avant, t'es soutenu par les journalistes et qui vont montrer ton exploit et qui vont t'interviewer autour de ça, bien entendu, c'est génial, et c'est un peu ce qu'on peut dire, la notoriété et le salaire du sportif, c'est de pouvoir être mis un peu en image comme ça. Et puis c'est bien. Mais sauf que quand tu restes dans cette normalité-là, bah, il n'y a rien qui dure, il n'y a rien d'original, il n'y a pas de côté atypique qui en sort. Que moi, je fais juste, c'est pas que je veux dire des choses particulières, c'est juste que quand on me pose des questions, je vais pas me cacher derrière quelque chose et tout. Moi, ce que j'aime, c'est des choses atypiques et différentes. Et un peu comme on m'a dit, oui, vous faites quoi ce week-end? Bah, ce week-end, oui, je vais faire de la terrine avec des sangliers qu'on a tués le week-end d'avant. Oui, je vais aller à la pêche, je prends mon sac à dos, je démarrerai le samedi matin à 8h, je dors au bord de l'eau dans ma petite tente et puis le dimanche soir à 19h, je reprends la voiture pour remonter à Paris. Voilà, c'est côté là un peu sympa. Puis quand tu vas un peu creuser, c'est des trucs atypiques qui sortent de l'ordinaire et puis qui plaisent ou non, hein, chacun ses convictions. Hein. Moi, je respecte ce que pense chacun. Après, voilà, chacun doit respecter aussi ce qu'aiment faire les autres. Moi, j'ai été élevé dans le monde rural, au milieu d'un tout petit village où 95% des gens qui sont là-bas sont issus de familles où, bah oui, il y a 50 ans, t'allais à la chasse pour pouvoir manger un gigot de sanglier à Noël parce que c'était le repas de fête. C'était dans les cultures. Aujourd'hui, je comprends que la civilisation, le monde évolue et que c'est plus comme ça. Mais après, moi, je suis quand même toujours resté là-dedans et aujourd'hui, on met ça un peu en avant et c'est un peu une guéguerre en ce moment entre le côté écologique, le côté chasse, le côté nature, le côté épicurien, le côté un peu le monde rural, quoi, où on est en train d'un peu de taper sur la ruralité. Je peux entendre les arguments de certaines personnes qui sont là-dessus.
Les traditionnels aussi.
Les traditionnels, bien sûr. Mais il faut aussi entendre les arguments dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que dans notre pays ou dans le monde, c'est que c'est toujours comme ça. Il y aura toujours eu des opposés. Il y aura toujours. Donc, ce qu'il faut, c'est que j'espère qu'on arrivera vraiment un jour à trouver des bons compromis, comme ça s'est toujours bien passé, et que chacun respecte les passions de l'autre, quoi.
Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. Je pense que ce qu'il faut, c'est de l'écoute et de l'échange, tu vois. Et c'est, y a que comme ça que tu trouves des compromis intelligents.
C'est un truc très intéressant, ça, tu vois, et ça fait partie de ce que j'ai appris à France Archerie. Voilà. Moi, j'aime la pêche, j'aime la chasse, j'aime la nature. Je suis pas fan d'être passé des soirées derrière un ordinateur. Je suis pas fan d'aller passer des heures faire du lèche-vitrine dans les grandes boutiques à Paris. C'est pas quelque chose qui me plaît, c'est comme ça. À d'autres, c'est ça. C'est de jouer à la PlayStation. C'est, ben, tant mieux. C'est leur passion. Moi, mes passions, elles sont différentes. Et j'ai appris beaucoup à France Archerie dans la boutique, là, où ce qui est incroyable, c'est quand tu vendais un arc à 10h15 le matin, à la personne qui vient acheter un arc parce qu'il fait du tir à l'arc dans un club, parce que c'est un sport propre. Quand je dis propre, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation de poudre, il n'y a pas de, c'est renouvelable, tu tires des flèches, tu vas les chercher. C'est pas comme d'autres sports où c'est plus du consommable. Bien sûr, on a du consommable, mais qui est sur du plus long terme, parce que ça prône un petit peu l'écologie, parce que c'est la douceur, l'harmonie, l'art ancestral de la pratique de l'arc, et que en aucun cas on peut parler et envisager avec cette personne-là de la chasse à l'arc ou de différents trucs qui tournent, même d'aller faire ce qu'on appelle du tir 3D. Tir 3D, il y a les championnats du monde de tir 3D qui sont des disciplines de parcours et les cibles, c'est des animaux en mousse. Donc voilà, c'est très ludique, c'est très culturel et ça reste, voilà, des animaux en mousse. Mais tu pouvais même pas parler avec cette personne-là de ça, parce qu'elle me dit, c'est inadmissible que des gens s'amusent à viser une silhouette animale. Et toi, t'es là, en tant que vendeur, tu t'adaptes à ton client. Et puis du coup, et forcément, tu te mets dans la peau du client, tu dis, ouais, vous avez raison. Après, tu temporises, mais tu peux pas donner non plus ton avis qui est ou pas opposé à ce qu'il pense. Mais tu t'essaies de t'intégrer là-dedans. Et le client d'après, 45 minutes après, c'est le plus grand des braconniers qui vient acheter une arbalète parce qu'il veut tirer les sangliers dans son jardin tous les soirs. Et là, et toi, tu dois aussi adapter ton discours à cette personne-là, et que c'est adapté, peu importe mes convictions personnelles, de qu'elles soient d'un côté et qu'elles soient que de l'autre, mais c'est que tu dois jongler et t'adapter avec ces deux personnages qui sont arrivés là à un quart d'heure d'écart, et que tu dois avoir un discours qui est totalement différent sans pour autant faire du mensonge. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris aussi dans la vie, de temporiser, d'écouter, d'entendre, d'apprendre et de remettre en avant les différentes difficultés, qu'elles viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. C'est pas un parallèle avec la politique, mais c'est un parallèle visuel, là. Si on voyait, j'ai ma main de chaque côté, qui dit qu'il y a deux opinions complètement différentes, mais qui sont même pas là pour pour s'entendre ou s'écouter. Et c'est même pas s'écouter. C'est qu'ils sont tellement prônés sur un truc. Et puis moi, j'étais souvent dans ces situations-là, un peu au milieu. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Même ouais. dans le monde du sport où il y a certains moments, il y a eu quelques complications, on va dire, du côté de mon club. Dans le côté personnel, avec la fédération, c'était pas forcément le plus grand amour, parce que la fédération entreprenait certaines choses qui ne plaisaient pas forcément. Bien là sûr. Où j'ai appris de tir à l'arc dans un petit club de village, et que ça allait pas avec les grandes lignes de la fédé, et que moi, je vais le week-end dans mon petit club à entendre tout ce qui est vraiment nul dans la fédé, et je retourne le lundi en pôle à l'INSEP, et en fait le pôle à l'INSEP, c'est les entraîneurs fédéraux, donc je suis en gros avec la fédé, donc tu fais le lundi ou vendredi côté fédé, et puis le samedi dimanche côté là en ce moment la fédé ça va pas, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi apporté d'être capable de mettre de la neutralité là-dedans, en fait. Ouais. C'est d'entendre, d'écouter chacun, et puis après voilà, de faire son avis et de l'exposer si on a besoin et si je ressens l'envie, mais c'est pas forcément le cas, c'est vraiment d'écouter et d'entendre, et ça c'est important.
Je vois ça, et leur passe, et je voulais pas te garder encore je pourrais te garder des heures. Moi, je suis un grand passionné de sport, et tu vois, il y a plein d'autres sujets à aborder, mais peut-être que tu vas devoir filer et que la journée.
Moi, ça va, je suis pas pressé, mais c'est juste que si tu fais un podcast qui va durer 4 heures, peut-être qu'il y a des gens qui arrêteront avant, quoi. Donc c'est vrai que.
Mais écoute, moi, je pourrais. Tu sais que le plus grand podcasteur au monde, celui qui a la plus grosse audience, il fait des épisodes des fois de 5 heures comme ça, et les gens écoutent. Donc.
Ouais, bah après, quand c'est intéressant, quand t'as c'est l'échange et que le public, moi en écoutant de temps en temps, bien sûr qu'il y a des podcasts qu'au bout de 3 minutes tu te dis non mais là ça va me saouler, c'est pas du tout intéressant. Mais après quand tu te prends un peu autre chose et puis de voir et d'entendre un peu ce que c'est, je me rappellerai toujours sur c'était pas un podcast, on était, je crois que c'est Jason Lamy Chapuis.
Okay.
On était aux Étoiles du Sport. Voilà, c'est des regroupements qu'on a avec les différents sportifs de haut niveau. Quand on avait fait des bien médailles, sûr. On était invité. C'est quelque chose de génial.
Je vais peut-être y aller au prochain. Donc,
parce que voilà, tu rencontres n'importe qui que tu te dis, mais ce mec-là, jamais je l'aurais rencontré, que ce soit dans des stars du sport ou que ce soit des stars d'autres, quand je dis d'autres disciplines, que ce soit du média, que ce soit du business, que ce soit de la télé, peu importe, mais que tu te retrouves sur le. Au même endroit, quoi. Autour de la même table, au petit déj le matin, que ce soit même un chanteur, mais que t'es la même personne. T'es là en train de déjeuner, et puis de, son plus grand choix du matin, c'est est-ce que je vais prendre du thé ou du café? Et puis on est tous pareils, quoi. Et puis ça, c'est génial. Et puis je me rappellerai, je crois, toujours cette intervention de, ça faisait partie, j'étais vraiment jeune, c'était dans mes débuts, où je trouvais que Jason, je crois qu'il nous parlait pendant un bout de temps, s'il y avait une intervention d'une heure, une heure et demie, je me rappellerai toujours les 10, au bout de 10 minutes, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Parce que il avait entrepris son discours et de raconter sa vie, et c'est pas ce qui me plaisait. Jusqu'à partir d'une 15, 16, 18 minutes, je sais plus, il a abordé quel sujet, quel tournant dans sa vie, quel truc, et que là, on est rentré, mais même tous, hein, ça se voyait bien dans la salle. Dans une euphorie individuelle de se dire, mais là, ce qu'il est en train de nous raconter, c'est exceptionnel, c'est grandiose. Et tous ces petits trucs-là ont fait aussi que, ben voilà, comme je dis, hein, j'écoute, j'entends, et puis ben, chacun se forme autour de ça, quoi.
Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ouais, je crois que le meilleur conseil, ça a toujours été le même, toujours été de mes parents, les gens qui m'entourent, mais surtout mes parents, c'est de se. Fais ce qui te plaît et fais-le à fond surtout. Te mets pas de frein. Et en ayant eu la chance qu'on m'accompagne et qu'on me suive, est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. Je crois que ça a été mon meilleur conseil, quoi. Okay. Si j'avais voulu faire de la danse classique, il n'y aurait eu aucun jugement là-dessus, puis j'aurais fait de la danse classique et j'aurais peut-être réussi. Ça m'étonnerait, mais peut-être, on ne sait jamais. Mais je veux dire, voilà, je crois que c'est ça.
En parlant de ça, il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer au haut niveau. Tu disais que tu en avais pratiqué plein jeune. T'as aussi mentionné un petit peu la chasse. Donc, bon, c'est pas un sport olympique, mais ça peut être considéré comme un sport. Mais le tir de vitesse ou le tir de précision?
Bien sûr. Alors, il y a plein de sports que j'aurais aimé faire. Aujourd'hui, j'ai bien compris que le sport de haut niveau, si tu peux pas en faire 50 si tu veux performer. Donc, je suis resté dans le truc me plaisait, bien sûr. Après, quand on pose un peu des questions comme ça, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé. Le ball trap. En fait, moi, j'aime bien un petit peu les armes à feu. Et puis, bah oui, parce que ça fait partie un peu de ma culture dans le monde rural, du fait que j'ai été chasseur, mon grand-père était chasseur, donc oui, il y avait une vieille carabine au fond du placard, comme chez 95% des foyers français aujourd'hui, et de se dire, bah ouais, du coup, ça a nourri un peu ça, et c'est sûr qu'aller faire du baltrap une fois de temps en temps, je me rappelle, on allait avec mon grand-père ou même mon père, hein, dans le village à Boussière, il y avait une fois par an un baltrap du village organisé, et ce qu'on appelait le piquet-saucisse. Piquet-saucisse, c'était magique, parce que tu t'inscrivais, il y avait 10 plateaux qui sont tirés, et puis qui sont lancés, et toi, avec ton fusil, tu dois casser ces fameux plateaux d'argile. On était 5, 6 à s'inscrire et c'était de la mini-compète. C'est-à-dire que ça durait une demi-heure, ces 5, 6 là étiraient. Et celui qui gagnait, il gagnait une saucisse de morteau. Et on est en Franche-Comté là. Donc donc c'était le piquet saucisse. Je me rappelle, même quand je faisais déjà le tir à arc au niveau, mais qu'on avait passé des week-ends au piquet saucisse dans les ball-traps du 4 coins de Franche-Comté. Génial. Ça, c'était magique. Donc forcément, c'est le ball-trap, oui, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Voilà, un peu à côté. Après, j'ai la chance que la chasse, la pêche, aujourd'hui, ça aurait pu être pratiqué professionnellement. Hein, si la Fédération française de chasse, hein, c'est quand même la deuxième plus grosse fédération française, tout sport confondu au point de vue du nombre d'adhérents. Donc, il faut quand même considérer que c'est quelque chose qui est très gros. Mais après... j'ai eu la chance de rentrer dans le sport de haut niveau et que ces deux fameuses choses qui sont la pêche, la chasse, voire trois, on va dire, avec la généralité dans le monde rural, la nature, que ce soit aller tailler des arbres, que ce soit greffer des pommiers au printemps, que ce soit s'occuper d'un jardin, je pouvais le faire et je peux toujours le faire en parallèle de mon sport de haut niveau. Donc en fait, ça me permet aussi, c'est typiquement le mot que j'aime bien employer, c'est mon parallèle, c'est mon échappatoire. C'est comme je disais tout à l'heure, hein, ceux qui aiment bien passer leur week-end quand ils sont pas en compète derrière la PlayStation, aller faire des courses en ville et passer des journées à acheter des fringues de marque. Moi, tu me demandes de choisir demain, aller passer une journée à choisir des fringues de marque dans une boutique ou passer une journée à aller... greffer des arbres ou tailler de la vigne chez un vigneron, ben oui, bien sûr, je vais tailler la vigne parce que c'est ça mon dada et c'est ça l'avantage de mes différentes passions un peu originales, c'est que j'ai pu continuer à les pratiquer et je pense que c'est ce qui m'a fait sortir aussi la tête de l'eau dans des moments difficiles.
Okay.
Donc, parce que forcément là tout est beau, tout est rose quand on le parle aujourd'hui sur mes 20 ans de vie de haut niveau, mais forcément il y a eu des hauts, il y a eu des bas comme chez tout le monde, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, et puis ces fameuses passions de dire voilà, j'ai passé une semaine d'entraînement du lundi au vendredi catastrophique parce que les résultats étaient pas là, parce que pour X raison ça allait pas, parce que il y a t'étais en couple avec une petite amie et puis que ça elle a décidé de changer et que du coup tu te retrouves là le week-end et tu te dis qu'est-ce que je vais faire, et en fait ces fameuses passions qui sont la chasse, la pêche, le côté nature, et je pouvais me réfugier dedans. Et franchement je pense que c'est à des moments où ça m'a vraiment permis de revenir le lundi et charger à 100% pour recommencer, quoi.
T'arrives à pêcher là dans la Marne là?
Bien sûr.
T'as des spots à me conseiller? Parce que moi j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois, donc tu vois, je suis un petit gamin du coin.
À toi. Moi j'ai à l'INSEP, je suis rentré là, j'avais 17 ans. Ça a été un grand moment, c'est que anecdotique, si tu veux encore, si t'as encore une ou deux minutes pour enregistrer.
Vas-y.
C'est que j'étais au pôle à Nancy après ma deuxième année, donc j'ai fait Dijon, Nancy. Et quand j'étais à Nancy, donc ici à l'INSEP, il y avait Marc Dellenbach, l'entraîneur, et il y avait également un entraîneur coréen qu'ils avaient fait venir pour une Olympiade.
Okay.
Et puis ils avaient dit, Jean-Charles, avec les résultats que tu as à Nancy, il faut que tu montes à l'INSEP, on veut. J'étais le seul à pouvoir monter cette année-là en disant non, non, mais là, on veut que tu viennes. Et moi, j'en avais pas du tout envie. Moi, j'arrive à Nancy, 16 ans, 17 ans, première année de lycée. Complètement autonome, internat. Je passais mes week-ends à l'internat quand je redescendais pas à Besançon, parce que Besançon, c'était pas aussi facile que depuis Dijon.
Ouais.
Et là, tu commences à avoir ta vie d'adolescent, les premières copines, tout ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent que j'aille me faire chier à Paris, au milieu de tout le monde, alors que je suis très bien à Nancy? Et du coup, j'ai exposé ça avec mes parents, et on a dit, non, écoute, je vais rester à Nancy, on verra plus tard. Sauf que la fédération et mon entraîneur, qui aujourd'hui... ont pris des décisions très dures à ce moment-là, que je remercie parce que j'en a abouti à ce que je suis aujourd'hui au point de vue sportif. Mais sur le moment, c'était très compliqué parce qu'on m'a mis un ultimatum. On m'a dit, écoute, si t'as pas l'ambition d'évoluer dans le tir à l'arc et de monter à l'INSEP comme on te le propose, eh ben, tu rentres chez toi. Donc en fait, je me suis retrouvé, et puis ce qui était logique, on va dire, dans un discours aussi. Parce que c'est pas comme si on me forçait à venir là, que je pouvais plus continuer mes études. La section BEP, vente action marchande était, j'allais rentrer en bac, pouvait être fait ici à l'INSEP. Donc forcément, il y avait pas vraiment de raison que je dise non, à part le fait d'aller à Paris. Et c'était inconcevable dans le monde du haut niveau. Et du coup, j'ai eu cet ultimatum, j'ai dit avec mes parents, écoutez, je veux bien. Ok, on est d'accord, je me lance là-dedans. Mais il y a une condition, c'est que je veux pas être traité à l'INSEP comme un bébé. Je commence seulement à avoir mon autonomie. Là, j'avais 17 ans, j'étais à Nancy. Ça me plaisait de passer mes week-ends tout seul, à faire ce que je veux, sans forcément donner trop de comptes à mes parents, bien sûr. T'es mineur, bien donc sûr. Tu rentrais à 10 heures. Il n'y avait pas de question à se poser là-dessus. Mais être un peu libre, je dis, mais moi, si je reviens à l'INSEP et puis qu'on me force à y aller le soir de 20h à 22h en études, et que si jamais un soir dans la semaine, je vais aller au cinéma avec les grands, quand je dis les grands, c'est ceux du pôle qui avaient une voiture, le permis, et que je suis obligé de demander à mes parents qu'ils fassent un mot pour dire que oui, tu vas rentrer à 22h30 et pas à 22h, c'est inconcevable. Donc il faut que je veux bien rentrer à l'INSEP, mais à une condition, c'est que j'ai les mêmes situations qu'un majeur. Et en fait, j'avais 17 ans et demi, parce que j'allais avoir 18 ans au mois de mars, et je suis rentré en septembre à 17 ans et demi.
Okay.
Et puis la seule solution, en fait, c'était de m'émanciper. Donc quelque chose d'assez original pour mes parents de se dire, 17 ans et demi, on va émanciper, on va faire une demande d'émancipation à son fils pour qu'il ait, normalement, c'est pour que les gens soient autonomes quand ils en ont besoin, parce que les parents, il y a des problèmes familiaux et tout. Mais là, c'était pas le cas, c'était dire que je pouvais aller le soir au cinéma, quand je voulais, comme je voulais, et surtout que j'intègre le bâtiment des majeurs.
Okay.
Et en fait, mes parents ont dit oui là-dessus. On est allé devant, parce que tu passes devant un juge, quand tu demandes une émancipation. Okay. Expliquer et justifier ça, ça a été compréhensible. Et puis, quand j'ai eu l'accord et que du coup, je suis rentré à 17 ans dans le bâtiment des majeurs, c'était un peu une première ici. Et puis, mais bon, c'était comme ça. J'ai les droits d'un majeur, donc assumer le fait des droits d'un majeur aussi. C'est là, ça fait partie des moments aussi où on m'a donné vraiment confiance et que j'ai pris conscience que tout le monde était derrière moi et que c'est pas que je devais pas les décevoir, mais c'est qu'en tout cas, je devais faire ce qu'on me donnait les moyens de faire. Okay. Et ça a été, un grand déclencheur aussi.
Ok, super cool. C'est la dernière question, un petit peu pour clôturer un peu l'interview. C'est pas un passage de flambeau, c'est un passage de micro. Et c'est savoir quel est le ou les prochains athlètes que tu me recommandes d'aller interviewer. Ça peut être des gens qui t'ont inspiré, des gens avec qui t'as sympathisé.
Écoute, tu vois, si je vois bien ta question, je vais pas te dire un athlète parce que je peux pas te donner un athlète, mais je vais t'en donner plusieurs. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs choses en tête. Il y a le côté, moi j'ai rencontré quand je suis rentré ici à l'INSEP, un peu plus tard, Sébastien Flûte, qui a été champion olympique en 92 au tir à l'arc, et qui est devenu un ami. Mais un ami très proche, parce que situation familiale assez particulière, qui a fait que pour préparer les Jeux de Londres en 2012, 3 ans avant, Sébastien s'est relancé dans l'aventure à 40 ans et a décidé de venir ici à l'INSEP au quotidien. Et en fait, on en est devenu tellement proche, et qu'après les Jeux de Londres, où lui et moi n'avons pas réussi à nous sélectionner d'ailleurs, on a pris une coloc ensemble à Paris. À Paris, à Champigny, juste à côté, là où les athlètes d'un sport non professionnel peuvent se permettre d'aller tout en restant au contact de l'INSEP. Et puis on a pris une coloc ensemble, et puis voilà, on est devenu quand même très très proches. Et c'est quelqu'un qui parle pas énormément. Quand je dis il parle pas énormément, quand tu le croises dans la rue, ça va pas être le grand démonstratif. Par contre, quand tu vas creuser un peu sa personnalité, ses originalités, comme on est en train de le faire sur un podcast comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui de grandiose, je le trouve, et qui m'a aussi un petit peu apporté au tir à l'arc, bien entendu, dans tout, dans les conseils, dans les moments en tant que collègue, en tant qu'adversaire et coéquipier, parce qu'on a fait différentes compètes les années où il s'était réinvesti. On est parti sur différentes compètes ensemble internationales, et c'était des grands, grands moments de se dire que nous, les petits couillons de 22 ans, on se retrouve en collègue par équipe avec papy, comme on l'appelait, quand on avait 40, quoi. Donc c'était rigolo. Et après, deuxièmement, c'est des amis que j'ai rencontrés là après 2016, avec qui on fait partie d'une association à but caritatif ensemble. C'est Joseph Terek et puis Cyril Marais. C'est deux judokas. Donc Joseph, okay. C'est celui qui a été champion de France il y a une semaine en battant Teddy Riner. Et puis Cyril Marais qui a fait une médaille de bronze en même temps que moi au jeu à Rio.
Et qui a été champion du monde aussi.
Et qui a été champion du monde aussi. Et en fait, bon voilà, moment de Rio, on se connaissait pas avec Cyril. Et puis on s'est rencontrés sur une ou deux soirées là-bas post-médaille. Donc forcément, ça a été un petit... assez festif et original. Et puis on s'est rencontrés avec des passions communes, des passions de la nature, issues du monde rural, de la pêche, de tout plein de points qu'on a mis ensemble en avant et qui, ben, au final, on s'est retrouvés à être amis jusqu'à être un petit peu engagés dans une association ensemble pour le sport handicap. Et puis, ben, de rencontrer dans les années qui ont suivi, là, Joseph aussi, qui est un jeune. Aujourd'hui, on peut dire un petit jeune de l'INSEP parce qu'il est là, voilà, chacun habite aux alentours de l'INSEP et on s'entraîne là quand même tous au quotidien, mais voilà, c'est des amis qui sont en train de devenir un peu proches, qui Cyril, c'est ma génération, je dis pas que sa carrière comme moi est derrière lui, mais c'est sûr que quand on a 30 ans qu'on fait du sport de haut niveau, on peut dire que notre carrière est déjà plus longue sans doute derrière nous que future.
Bien sûr.
Mais pas, sauf Joseph qui là, ben voilà, aujourd'hui a fait ses preuves la semaine dernière en battant Teddy au championnat de France, a un grand avenir de judoka devant lui, et puis c'est des personnalités vraiment atypiques. Qui sont un peu comme moi et qui, bah, tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à Brady qui est américain, qui pourrait devenir mon ami. Mais ces gens-là, c'est devenu mes amis parce qu'il y a quelque chose, quoi. Et on parle pas que du sport de haut niveau qu'on a en commun. Bien sûr, ça fait partie des choses. Mais c'est un peu tout le reste et tous les à côté. Donc si je peux te passer le micro et le flambeau en disant, bah, il y a des personnalités qui seraient intéressantes, je pense que ceux-là, en font partie.
Ok, mais juste avant de commencer, on avait parlé rapidement de Gauthier Clos et il m'a recommandé aussi d'aller voir Cyril.
Bah, tu vois.
Donc
oui,
j'ai le contact.
C'est la même génération. Quand je dis la même génération, c'est la même génération de sportifs et de réussite sportive. Toi, ouais, Gauthier, avec sa médaille au jeu, ouais. Cyril, moi. Et en fait, oui, on s'est connus parce que post-année olympique, il y a beaucoup d'événements qu'on fait, qu'on s'est retrouvés au même endroit pour parler du sport. Pas forcément individuellement chacun d'une autre, mais parler du sport en général, forcément avec le côté atypique chacun de son sport à lui, mais on était sur, c'est la même chose, pas parce que lui fait du judo, moi je fais du tir à l'arc, lui il est dans un bateau sur l'eau, ou lui il fait du foot, je veux dire on est tous au même endroit, et en fait c'est là où tu permets un peu de te connaître, passer du temps ensemble et de te rendre compte que t'as des personnes, des personnages qui sont comme toi et qui ont une histoire, qui ont un truc original à raconter, et que c'est pas forcément étonnant que t'aies déjà des noms comme ceux que je viens de te donner qui sont ressortis.
Mais écoute, merci infiniment Jean-Charles, je vais faire le max en tout cas pour aller voir Sébastien, Joseph et Cyril. Je pense que c'est des très bonnes recommandations. Moi j'ai passé une super heure et demie avec toi. C'était vraiment
avec grand plaisir.
C'était vraiment super. On est parti dans tous les sens, dans l'enfance, dans la chasse et tout. Et moi, c'est ce que j'aimais. Je suis un peu un rêveur moi aussi, et j'aime bien quand la discussion devient libre et en tout cas on a pu parler de plein de choses. Merci infiniment pour ton temps. La nuit va tomber, donc je te retiens pas plus longtemps. Mais
avec grand plaisir.
Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs? Est-ce que t'as envie de leur faire passer un petit message, un endroit où te suivre ou un endroit pour t'écrire si jamais ils ont bien aimé l'interview?
Ben voilà, moi je l'ai déjà mis un peu en avant. Hein. Je suis pas ordinateur, pas réseaux sociaux et tout ça. Forcément, ça peut me. En gros, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on peut me. Ça, c'est sûr que ça m'a porté préjudice et puis. Je suis passé à côté de beaucoup de choses, le fait de pas être très impliqué dans le monde social,
digital
et social, qui est en train de se mettre en place depuis voilà des années. Mais bien sûr que je pourrais, comme dire, me mettre à la mode et puis rentrer dans ce monde-là. Mais au final, ça va plus être une contrainte que se dire, bah tiens, je vais peut-être pouvoir décrocher un contrat à droite, un contrat à gauche, parce que j'ai tant de followers sur Insta, ou voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi, comme disaient mes parents, hein, tu fais ce que t'aimes et fais ce qui te plaît, fais-le à fond. Si aujourd'hui je dois me forcer de faire quelque chose, ça veut pas forcément dire que ça marchera pas. C'est juste que ça m'épanouira peut-être pas forcément. Et tant que j'ai le choix de m'épanouir dans ce que je fais, j'essaie de le faire, quoi. Donc, s'ils veulent me contacter, ils peuvent essayer. Voilà. non, mais c'est avec grand plaisir. Bien sûr, je suis quelqu'un de très ouvert et très, très, très abordable. Donc, à l'occasion de peu importe, une rencontre ici à l'INSEPT, une différente intervention, d'une différente soirée ou en vacances, faut pas hésiter. Je suis là avec grand plaisir.
Bah écoute, on terminera sur ces belles paroles et sur ce petit challenge du coup de
surtout et essayer le tir à l'arc. Vous verrez bien, ça vaut le coup.
Ouais, carrément. Bah en tout cas, j'espère qu'on aura donné envie à plein de gens d'essayer.
Après c'est une passion comme une autre, hein, c'est quelque chose de très atypique et qui fait partie, c'est que c'est accessible à tous. Comme on a pu l'entendre en chanson, hein, de 7 à 77 ans, ou c'est aussi accessible quasiment tous les handicaps. Quand je dis tous les handicaps, c'est magique, parce que moi je connais des archers qui sont aveugles. Tu te dis, mais comment déjà c'est possible? Bon, après, s'ils ont un petit laser sur leur arc et puis un truc qui sonne dans les oreilles, donc ils peuvent tirer comme ça. Et je connais même un Américain qui n'a pas de bras et qui tire à l'arc.
Ouais.
Donc tu vois, c'est pour te dire à quel point le tir à l'arc est accessible à tous, et puis si tu le prends un petit peu de passion, c'est merveilleux, quoi.
Ok, super. Bah écoute, merci infiniment Jean-Charles, je te souhaite une bonne fin de journée.
Et bah toi aussi, avec
plaisir. Et on se dit à bientôt.
À bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.